de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition d'aujourd'hui, jeudi, le 23 avril 2020, pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter le journal d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres le satellite militaire inaugural de l'Iran orbite avec succès. Les habitants de Pékin choisissent toujours de rester chez eux. Les dirigeants australiens et américains discutent de l'enquête sur la pandémie du coronavirus. L'Indonésie a lancé un plan d'action radical pour réduire les déchets plastiques. La production halieutique continue d'augmenter malgré une pandémie. Les passagers du Timor-Est seront récupérés par le consul général du RDTL. Et TEPCO Japon considère la menace d'un tsunami pour la centrale nucléaire de Fukushima. Chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Vous êtes avec moi, Audrey. Le satellite militaire inaugural de l'Iran orbite avec succès. Les gardiens de la révolution iranienne, IRGC, ont déclaré mercredi qu'ils avaient réussi à lancer leur premier satellite militaire en orbite, sans donner plus d'explications sur la technologie utilisée. La force influente a déclaré que le satellite porteur Messenger avait été utilisé pour lancer le satellite Nour, ou bien Lumière. Le lancement a eu lieu lorsque les relations entre l'Iran et les États-Unis concernant le programme nucléaire et des missiles de Téhéran se sont réchauffées et quelques mois après que le général iranien Qassem Soleimani a été tué lors d'une frappe de drone américain à Bagdad le 3 janvier. Selon la chaîne de télévision publique, le premier satellite militaire iranien, Nour, a été lancé mercredi depuis le centre de l'Iran et en deux étapes. RGC, via son site, le lancement a été réussi et le satellite a atteint l'orbite. Nour est maintenant en orbite à 425 km au-dessus de la surface de la Terre. Les habitants de Pékin choisissent toujours de rester chez eux. Un certain nombre d'habitants de Pékin ont choisi de rester chez eux après que les autorités sanitaires de la capitale chinoise aient désigné le district de Chaoyuan comme une région à haut risque de l'épidémie de COVID-19. Dans le sud-district, la le plus peuplé de la ville de Pékin, un nouveau groupe d'épidémie s'est déclaré après que 4 membres de la famille ont été exposés au virus mortel. Un habitant de Chaoyang prévoyait de prendre des vacances à Guilin, dans la région autonome du Huangxi, dans le sud de la Chine, pendant la période des fêtes du travail commençant le 1er mai. Mais après avoir entendu la nouvelle, la femme de 30 ans qui travaillait comme employée de banque a annulé son plan. Selon China Daily, mercredi 22 avril, en outre, la commission de la santé du Huangxi a annoncé dimanche 19 avril que des personnes vivant dans le district de Chaoyang à Pékin ont effectué au cours des 14 derniers jours des tests d'acide nucléique obligatoires. Étant donné que Chaoyang a été désigné district épidémique à haut risque, toute personne revenant des provinces ou des villes voisines, comme la province du Hubei et la ville de Tianjin, doit d'abord être mise en quarantaine. Les dirigeants australiens et américains discutent de l'enquête sur la pandémie du coronavirus. Le premier ministre australien Scott Morrison a demandé le soutien d'une enquête internationale sur la pandémie du coronavirus lors d'une conversation téléphonique avec le président américain Donald Trump, ainsi que des dirigeants allemands et français pendant la nuit. L'Australie encourage une enquête indépendante sur l'origine et la propagation de la pandémie, y compris la réponse de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a suscité de vives critiques de la Chine, qui a accusé les législateurs de l'Australie ont reçu des instructions des États-Unis. Le nouveau virus corona serait apparu sur un marché de la ville de Wuhan en Chine centrale à la fin de l'année dernière. Le virus s'est propagé dans le monde et a infecté 2,3 millions de personnes et tué près de 160 000 personnes, selon les calculs de Reuters. Dans son compte Twitter, Morrison a déclaré qu'il avait eu une discussion très constructive avec Trump concernant la réponse sanitaire des deux pays au COVID-19 et la nécessité de continuer à gérer l'économie. L'Indonésie a lancé un plan d'action radical pour réduire les déchets plastiques. L'Indonésie a lancé un plan d'action radical pour réduire les déchets plastiques, comme prévu pour réduire le volume de déchets plastiques dans l'océan indonésien de 70% en 2025 et 100 déchets plastiques en 2040. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan, lors de son discours liminaire d'en réduire radicalement la pollution plastique. Lancement numérique du plan d'action multipartie prenante indonésienne avec le partenariat mondial pour une action plastique à Jakarta mercredi. Selon Luhut, l'Indonésie a fait un certain nombre d'efforts pour résoudre les déchets marins, allant de la restauration de l'image de la rivière Citarum, qui était auparavant considérée comme le deuxième fleuve le plus sale du monde avec les politiques existantes, jusqu'à la construction d'installations de recyclage des déchets plastiques dans un certain nombre de villes. L'Indonésie a rejoint le partenariat mondial pour une action plastique, une nouvelle plateforme de collaboration publique-privée qui a été lancée l'année dernière lors du Forum économique mondial. À partir de là, l'Indonésie est devenue le premier pays au monde à lancer le partenariat national indonésien pour l'action plastique, NPAP, un partenariat inclusif et animé par des solutions pour surmonter les défis de la pollution plastique, et le même partenariat est en cours de préparation pour le Ghana et bientôt aussi pour le Vietnam. La production halieutique continue d'augmenter malgré une pandémie. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Eddy Prabowo, a déclaré que la production halieutique dans le pays ne s'arrêterait pas pendant la pandémie mondiale COVID-19, car les populations de diverses parties du monde ont encore besoin de produits de la pêche pour être consommés. Selon Eddy Prabowo, sa partie n'a jamais cessé et désespéré de produire du poisson au milieu d'une pandémie, car les bonnes intentions sont censées réussir aussi. Le ministre des Affaires maritimes et de la pêche a déclaré qu'un certain nombre de licences avaient été assouplies et que des dérogations avaient également été accordées aux acteurs commerciaux, notamment en ce qui concerne les navires de transport et les exportations d'un certain nombre de produits touchés par l'épidémie de COVID-19. Il a également déclaré que son bureau s'était coordonné avec divers acteurs commerciaux pour discuter de la question des prix des aliments pour poissons. Plus tôt, le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Eddy Prabowo, a déclaré que les acteurs du commerce des aliments pour poissons et crevettes étaient convenus de reporter l'augmentation des prix au milieu de la pandémie de COVID-19. Les passagers du Timor-Est seront récupérés par le consul général du RDTL. Tous les passagers du Timor-Est qui entrent par la porte de l'aéroport El Tari Kupang, Nusantara Est, seront récupérés directement par le consulat général de la République démocratique du Timor-Est, RDTL, à l'aéroport. Cette politique a été prise pour que le mouvement des Timorais de l'Est qui entrent par l'aéroport d'El Tari Kupang soit plus facilement contrôlé. Cela a été dit par le coordinateur régional et des transports du groupe de travail pour l'accélération de la gestion du COVID-19 de la province de Nusa Tenggara Est, Ishak Nuka Antara, à Kupang mercredi. Il a dit lieu au traitement des citoyens de Timor-Est qui sont entrés par l'aéroport El Tari Kupang depuis la zone rouge comme cela s'est produit la semaine dernière. La semaine dernière, cet étudiant est-timorais qui sont entrés vers l'aéroport El Tari Kupang en provenance de Java et ont été escortés par un voyage depuis Kupang. Ont rapporté un COVID-19 positif. Après la prise en charge, le consulat RDTL doit également faciliter son départ par voie terrestre pour la Timor-Est. TEPCO Japon considère la menace d'un tsunami pour la centrale nucléaire de Fukushima. La société mère japonaise des services publics d'électricité Tokyo Electric Power Company TEPCO examine un rapport du gouvernement qui met en évidence une autre menace potentielle de tsunami qui a frappé la centrale nucléaire de Fukushima détruite. TEPCO a déclaré mercredi qu'il tentait de nettoyer son site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi qui a été frappée par un tremblement de terre et un tsunami massif en 2011. Les efforts de nettoyage du site de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi devraient durer plusieurs décennies. TEPCO s'efforce de construire une défense de centrale nucléaire pour faire face à d'autres catastrophes. Selon la chaîne de télévision NHK, la dernière projection du gouvernement japonais montre qu'une digue de 11 mètres de haute prévue par les ingénieurs de TEPCO pourrait être dépassée si elle devait résister à des vagues de tsunami supérieures à 20 mètres provoquées par des tremblements de terre mesure 9 sur l'échelle de Richter ou plus qui a frappé la côte et du Japon en mars 2011 avait une puissance de 9 l'échelle de Richter pour déclencher un tsunami qui a provoqué la destruction de 3 réacteurs nucléaires à Fukushima. Bon, chers auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers amis lointains, voici le commentaire et pour le titre « Maudit le Barang ou rentrer à la ville natale de le Barang sera aboli ». Le gouvernement indonésien a finalement officiellement interdit les activités de rentrer à la ville natale avant le Barang cette année dans toutes les régions d'Indonésie, visant à restreindre les mouvements humains et à réduire la propagation de COVID-19. L'insistance du gouvernement à interdire le retour à la ville natale existe après que la restriction sociale à grande échelle et la distanciation sociale aient été menées et mises en œuvre pour empêcher la propagation de COVID-19. Mardi, le 21 avril, lors d'une réunion restreinte du cabinet, le président Joko Widodo a finalement officiellement confirmé l'interdiction du retour à la ville natale avant le Barang. Cette interdiction vise également à créer un sentiment de sécurité et de confort pour les habitants des régions. En outre, le gouvernement supervisera le courant de retour en installant des postes de surveillance en divers points et sur les routes terrestres, aériennes et maritimes. L'interdiction de retour à la ville natale avant le Barang entre en vigueur vendredi le 24 avril. Pendant ce temps, le ministre des Transports par intérim, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que sa parti imposerait des sanctions sous forme de d'amende financière et d'emprisonnement aux personnes qui rentrerait à la ville natale plus tard. Les sanctions prendront effet à partir du 7 mai 2020. L'interdiction est réalisée principalement pour les zones rouges. Comme nous savons tous que la période d'incubation d'un virus dans le corps d'une personne est d'environ 14 jours. Donc, si une personne est en bonne santé, même si elle a effectivement été infectée par le virus, et lorsqu'elle rentrait à sa ville natale et ou ses proches, elle le transmettra à toute personne directement liée. En fait, la proposition d'interdire le retour à la ville natale a été soumise par de nombreux experts de la santé fin 2019. Jusqu'à présent, aucun remède ou vaccin pour la guérison des patients atteints de COVID-19 n'a été trouvé. Les scientifiques tentent de trouver une panacée pour la guérison. Mais bien qu'un peu tard dans l'interdiction de retour à la ville natale avant l'aide, la vie officielle du gouvernement a soulagé de nombreuses personnes qui se soucient de la santé et de la sécurité des vies. Bien sûr, avec l'interdiction de rentrer à la ville natale, les Indonésiens peuvent toujours célébrer le Barang et Silaturahim. Mais le sens le plus significatif de première Syawal est de nous rapprocher le Dieu Tout-Puissant en menant des activités d'adoration dans la maison respective. Serge Littor, c'était le commentaire pour ce soir.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 23 avril 1984, le virus qui cause le sida a été découvert par une équipe de chercheurs américains. Le 23 avril 1984, la ministre américaine de la Santé et des Services sociaux, Margaret Heckler, a annoncé que Dr. Robert Gallo et ses collègues de l'Institut national du cancer ont découvert la cause du sida, le rétrovirus. Heckler a également annoncé le développement d'un test sanguin de diagnostic pour identifier HTLV-3. Le 23 avril, la Journée mondiale du livre. En 1995, l'UNESCO a organisé à Paris une conférence générale qui a déterminé que le 23 avril était célébré comme la Journée mondiale du livre, basée sur la célébration de la Diada de Sant Jordi en Catalogne, en Espagne, au XVe siècle. Le festival La Diada de Sant Jordi est identique à l'homme qui donne des roses à sa petite amie. Les marchands de livres ont commencé à influencer la tradition de cette célébration. Les femmes ont commencé à donner des livres aux hommes comme substitut des roses qu'elles ont reçues. La commémoration de la Journée mondiale du livre est une forme d'appréciation entre les auteurs, les éditeurs, les distributeurs, les organisations de comptabilité et les communautés qui travaillent ensemble pour promouvoir le livre afin de renforcer les valeurs socioculturelles de l'humanité. Le 23 avril 2007, Boris Eltsine, le premier président russe, est décédé. Boris Nikolaïevitch Eltsine est le président de la Fédération de Russie, servi en 1991 jusqu'en 1999. L'ère de Eltsine est une période dramatique dans l'histoire de Russie, une période marquée par le changement politique révolutionnaire, la démocratie et les grands problèmes politiques, économiques et sociaux. En son temps, il a coupé le budget du gouvernement à grande échelle dans le but d'équilibrer les revenus de l'État et de dépenser et emprunter des fonds des pays occidentaux. En conséquence, la Russie a connu une grave crise économique en 1998, plus grave que la Grande Dépression en Europe et en Amérique dans les années 1930. Il a démissionné de son poste de président le 31 décembre 1999. Il a été remplacé par Vladimir Poutine. Boris Nikolaïevitch Eltsine est décédé le 23 avril 2017 en raison d'une insuffisance cardiaque. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Cintamu abadi, wahai petaka merenggut kasihmu. Tiada petaka merenggut kasihmu. Oh gali, oh ratna, cintamu abadi. Wahai gali, duhai ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh gali, oh ratna, cintamu.
Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie. Bonsoir à tous, voici mon Indonésie intitulée « L'autonomisation des communautés au milieu d'une pandémie » à travers la réhabilitation des mangroves du parc national de Waikambas. Le ministère de l'Environnement et des Forêts s'efforce de réhabiliter la forêt de mangroves dans la zone tampon de la zone du parc national de Waikambas dans la province de Lampung par la responsabilisation des groupes d'agriculteurs forestiers et des communautés autour de la zone forestière. Dimanche dernier, le responsable du centre de gestion du bassin versant et de la forêt protégée de Wai Seputi Wai Sekampung, Idi Bantara, a déclaré que les activités de réhabilitation utilisant des méthodes d'autonomisation communautaire environnante comme celle-ci devraient augmenter les revenus des groupes d'agriculteurs et de communautés environnantes, à la fois en termes de salaire et d'approvisionnement de matériel et de semences. Tous les matériaux tels que les semences et la main d'œuvre sont tirés du potentiel qui existe autour du site. Cette activité fait également partie des efforts visant à résoudre les problèmes socio-économiques de la pandémie de COVID-19. L'activité en cours depuis 2017 devrait être en mesure de restaurer la zone de la forêt de mangrove dans la zone de tampon de la zone du parc national de Waikambas et peut augmenter les revenus et le bien-être de la communauté autour du lieu de l'activité, en particulier au moment de COVID-19. Idi Bantara a déclaré que cette année, 90 750 tiges de mangrove ont été plantées sur une superficie de 25 hectares, avec un budget d'environ 319 millions de rupiah. La communauté impliquée fait partie du groupe des agriculteurs forestiers de Rahayu Mandiri. Avec cette réhabilitation, en plus du succès de la réhabilitation de 25 hectares et de l'amélioration du bien-être de la communauté environnante, on espère également que les zones côtières, qui sont en même temps les limites du parc national de Waikambas, seront protégées du danger d'abrasion et d'intrusion des eaux de mer. De plus, pour améliorer la qualité de l'écosystème de la zone côtière, la biodiversité et l'augmentation des captures des poissons de pêcheurs, ainsi que sur la préservation de la zone du parc national de Waikambas, à la fois socialement et techniquement. C'est tout mon Indonésie.
Keindahan itulah anugerah. Tuhan kan selalu menerangi, ku kan selalu ada untukmu. Indonesia di Nusantara ini, bersyukurlah kita semua. Persada yang indah, Bhinneka Tunggal Ika. Tiada keraguan, saling ulurkan tangan. Bersama kita jaga Ibu Pertiwi kita.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le magazine culturel intitulé Le musée de la terre et de l'agriculture. Le 22 avril, le ministère de l'Agriculture de la République d'Indonésie a inauguré le musée de la terre et de l'agriculture. Il est le premier musée agricole indonésien à l'échelle internationale. Les anciens ministres et vice-ministres de l'Agriculture ont également assisté à l'événement. M. Suswono, le ministre de l'Agriculture de 2009 jusqu'à 2014, a souhaité que ce musée puisse stimuler l'enthousiasme de la génération du millénaire pour s'impliquer dans l'agriculture. Parce que selon lui, le secteur de l'agriculture jusqu'à présent est un secteur promoteur. Le musée de la Terre et de l'Agriculture est situé sur la rue Juanda Bogor dans l'ouest de Java. Il comprend 4 bâtiments principaux. Le musée de la Terre est situé dans le bâtiment A et le musée de l'Agriculture dans les bâtiments C et D. Sous le thème « Connecter le passé au futur », le musée de la Terre et de l'Agriculture invite tous ceux qui viennent d'explorer le développement de l'agriculture indonésienne de temps en temps. Le concept de ce musée est très unique, n'est pas monotone et n'est pas ancien. Le musée est fait pour être interactif, éducatif et instagrammable. Maintenant, le processus de mécanisation de l'agriculture utilise des drones, les applications du marché de l'agriculture intelligente et les tracteurs sans équipage avec le système de positionnement mondial. Vous pouvez également déguster du café, du thé et du cacao indonésien dans coin café disponible. Au quatrième étage, il y a divers grains hydroponiques et plantes fruitières, tout en regardant directement le mont de Salak et Gede Pangrango depuis le sommet du bâtiment. Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à visiter le musée de la Terre et de l'Agriculture, visitez-le maintenant parce que jusqu'aux 3 prochains mois, l'entrée au musée est toujours gratuite. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Kata yang kan ku katakan, oh, I love you, I la 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 la.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers auditrices et auditeurs dans le monde entier, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, intitulée Festival Muarang de Sabang 2019. Du 26 au 30 avril 2019, l'Agence d'exploitation régionale de Sabang et le Bureau de tourisme et de la culture d'Aceh vont organiser le Festival Muarang de Sabang 2019 sur l'île de Ve, la ville Sabang à Aceh. Cet événement international annuel a été organisé depuis l'an 2016 afin de faire de Sabang une destination maritime mondiale. Le gouverneur par intérim d'Aceh, Nova Iriansyah, a déclaré que le Festival Muarang de Sabang 2019 est un lieu de rencontre pour les clubs de yacht nationaux et étrangers, tout en promouvant le tourisme d'Aceh. Monsieur Jamaluddin, directeur du Bureau de la culture et du tourisme d'Aceh, espère qu'à travers cette activité, Sabang continuera à être une région visitée par des navires de croisière autres que Phuket et Langkawi. Trois navigateurs sont inscrits pour suivre l'agenda international qui se tient régulièrement chaque année. Ils viennent de la France, d'Amérique, d'Australie, Thaïlande et Singapour. Cette année, le Festival Muarang de Sabang ne montre que seulement la beauté du panorama naturel, mais aussi présente une variété de cultures locales aux touristes. Cette année, les touristes seront invités dans le village touristique Jaboy, Anne Laut et Kruang Jaya. Dans ce village, les navigateurs découvriront la culture locale. Dans le village Jaboy, les touristes découvriront comment fabriquer du poisson en bois, fabriquer du copra en râpé de noix de coco et rejoindre la concurrence populaire. Au village de Anek Laut, on leur présentera des façons de préparer des gâteaux traditionnels et des attractions culturelles. Pendant le séjour dans le village de Kruang Raya, le processus de fabrication de poisson salé sera présenté et il est prévu de déjeuner avec la communauté. Tout en organisé comme une collaboration du tourisme halal et du tourisme maritime à Banda Aceh. Outre à Sabang, les touristes ont également été invités à visiter la ville de Banda Aceh pour voir le site du tsunami et introduire le tourisme halal. Cette année, le Festival Muarang de Sabang proposera également diverses activités, notamment une cérémonie d'ouverture, un dîner, une visite de la ville, un spectacle de paramoteurs et vélos et promenades amusantes. Cet événement affecte certainement les revenus de la communauté dans les domaines des services, des guides touristiques, des transports, des attractions, des visites culinaires, des attractions touristiques et aussi des paquets touristiques. Universiti l'Indonesia en couleur de la voix de l'Indonesia à Jakarta.
Dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir, chers amis de la Voix de Musique dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix de Musique. Voici le programme musical. Pour l'édition de ce soir, nous allons vous présenter une chanson de Helen Sparinga. Le nom Helen Sparinga commence à être reconnu en Indonésie depuis la sortie de l'album intitulé Mon Amour Bleu en 1985. Cetak album esutunu pak obi mesa, wahi os ede di dokes ang tangke syangtak ang vite. Ang nutre, lenong demus mulyadi etegal mang apaku sur plusieurs sangsong de cet album ang tangke kompositor. La sangsong principal dang cet album e Mon Amour Bleu. Cet sangsong composé pak obi mesa, raconte de amoureux qui aime, mais se pare parce que l'homme a un autre amoureux. Cerita voici donc Helen Sparinga avec sa chanson ang titulé Mon Amour Bleu. Bonne écoute.
Oh, Voice of Indonesia.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Au revoir.